Cela fait un an que la guerre en Ukraine a éclaté. Au-delà des affrontements sur le terrain, il s'agit aussi d'une guerre des mots. Et au centre de tous ces mots, l'un d'entre eux ressort, la démocratie.
Другого способа защитить себя у нас не было. То же самое происходит и сейчас.
Nous n'avons pas l'intention d'occuper le territoire ukrainien. Nous n'allons rien imposer par la force. Notre politique est basée sur la liberté. Liberté pour chacun de déterminer son avenir et celui de ses enfants. Et nous considérons qu'il est important que toutes les personnes vivant en Ukraine d'aujourd'hui puissent exercer ce droit, le droit de choisir.
Le 24
février 2022, Vladimir Poutine choque le monde. À 4h du matin, dans son bureau, il annonce le début d'une opération spéciale en Ukraine. Dans son discours, le président russe reprend à son compte une des valeurs de la démocratie. Il veut libérer le peuple ukrainien.
Quiconque essaie de nous entraver et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate.
Barbara de Kock, professeure à l'Université catholique de Louvain et spécialiste des discours de guerre, nous explique pourquoi Vladimir Poutine a choisi ces mots.
C'est évidemment beaucoup plus positif, beaucoup plus honorable, disons, de vouloir libérer des personnes. Ça montrait ce qu'on fait comme une lutte positive. Donc c'est une stratégie, mais enfin, il n'est pas le seul à l'avoir utilisée dans l'histoire d'ailleurs.
Pourquoi Poutine parle-t-il d'une opération spéciale et pas d'une guerre?
Donc ça, c'est un grand classique en linguistique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de langage euphémistique, donc c'est-à-dire qu'on cherche un terme qui sonne un peu moins fort, moins négatif. C'est aussi une façon de ne pas appeler ça une guerre, de ne pas appeler ça une invasion. Sinon, voilà, une opération, quelque chose qui entre plus normalement dans le fonctionnement d'un État. Et donc, en lien avec la guerre, il y a toute une gamme, hein, d'ailleurs pas que de la part de la Russie, le fameux collateral damage des Américains. Bon, c'est en fait quand même pour dire qu'on a tué des civils.
Bien que reprenant une des valeurs démocratiques dans son discours, le président Poutine n'a jamais fait de la démocratie une priorité dans sa communication.
Toute sa période en tant que président est basée sur cette image d'un leader très fort, d'où aussi les images, enfin, il faisait du judo et où il montait à cheval, etc. Donc, une image très fortement appuyée sur une force physique. Il ne souligne pas beaucoup la démocratie, mais c'est aussi pas vraiment une base pour son pouvoir.
Au centre de ce conflit, un autre président, Volodymyr Zelensky.
The tyranny is outpacing the democracy. Russia.
La tyrannie l'emporte sur la démocratie. La Russie a eu besoin de moins d'une seconde pour déclencher la guerre. Le monde a eu besoin de plusieurs jours pour réagir avec les premières sanctions. Le temps que l'on prend pour réfléchir est utilisé par l'État terroriste pour tuer.
Un président qui trouve toujours des mots forts lors de ses interventions. Volodymyr Zelensky fait de cette guerre une guerre pour la démocratie. Pourquoi cette valeur se retrouve au cœur de ses discours?
C'est important de prendre en compte que, par exemple, avant la guerre, en tout cas par les personnes spécialisées en Ukraine, il y avait aussi des critiques sur la façon de laquelle il gère le pays, il y avait aussi des accusations de corruption, etc. Mais évidemment, cette guerre pour la démocratie souligne l'autonomie de l'Ukraine, de pouvoir dire que nous, on vote un certain président et ce président est mandaté pour décider qu'on préfère rester indépendant. Et de nouveau, c'est aussi une valeur qui rallie un bon nombre des personnes qu'il voudrait avoir ou des pays qu'il voudrait avoir comme alliés. C'est une valeur pour laquelle, je crois, pas mal de personnes en Europe de l'Ouest veulent bien se mobiliser ou estiment qu'une mobilisation est souhaitable et justifiable.
Les batailles sont aussi terribles que la bataille d'Ypres. Peut-être que ce qu'il se passe à Mariupol est même pire. Il y a deux mondes différents. Celui avec ceux qui luttent contre la tyrannie et celui avec ceux qui essayent de diviser l'Europe, détruire ce qui nous entoure et nous unit aujourd'hui.
Donc il fait appel là à un passé connu par son public, aussi à un traumatisme. On s'est dit avec la Deuxième Guerre mondiale, bon, plus jamais ça. Et donc en évoquant cette image, il essaie de concrétiser ce qui se passe. Il le traduit, pour ainsi dire, dans une situation beaucoup plus reconnaissable pour son public, et il fait peut-être aussi appel à ce vœu ou ce souhait de ne pas répéter cela. Si Zelensky joue la carte démocratie, disons, c'est clairement aussi un appel vers les États-Unis qui se présente souvent comme un défenseur de cela.
Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way.
Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie que nous gérons de la manière la plus responsable. Ces mots ont été prononcés par le président ukrainien au Congrès américain. Les dirigeants américains sont connus pour leur rôle de défenseurs de la démocratie. Les discours du président Biden ont aussi une importance dans ce conflit.
Autocrates only understand one word. No. No, no.
Les autocrates ne comprennent qu'un mot. Non. 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 Non, vous ne prendrez pas mon pays. Non, vous ne prendrez pas ma liberté. Non, vous ne prendrez pas mon avenir. Et je le répète ce soir, ce que j'ai dit l'année dernière au même endroit, un dictateur ne peut pas reconstruire un empire et ne pourra jamais apaiser l'amour d'un peuple pour la liberté.
Vous diriez que, en fait, Biden prend une position assez traditionnelle pour un président américain de se présenter comme défenseur de la démocratie.
De façon générale, oui. C'est aussi, évidemment, pour les États-Unis, une question du poids symbolique dans le monde entre la Russie actuelle et les États-Unis, et accessoirement la Chine aussi. Et parmi ces autres grands pouvoirs, c'est clair que les États-Unis est celui qu'on considère le plus comme un représentant de la démocratie.
Le choix entre le chaos et la stabilité, entre construire et détruire, entre l'espoir et la peur, entre la démocratie qui élève l'esprit humain et la main brutale du dictateur qui l'écrase.
En Europe, une des paroles les plus importantes concernant la guerre en Ukraine, c'est celle d'Ursula von der Leyen.
Then I know that we are all being tested today.
Je sais donc que nous sommes tous mis à l'épreuve aujourd'hui pour savoir si nous défendons la démocratie, si nous sommes inébranlables, unis et déterminés. Chacun d'entre nous participe à cette résilience. C'est à nous de protéger notre avenir. C'est à nous de faire prévaloir la démocratie. C'est à nous de rester unis.
It is up to us to stand in unity.
Un discours qui diffère par rapport à celui d'un chef d'État.
Je crois qu'il faut surtout prendre en compte que c'est des positions très différentes. Elle est présidente, mais pas d'un pays, mais d'un ensemble de pays. Dans l'ensemble de pays sans armée. Et en outre, il y a au sein de l'Union européenne un peu cette situation difficile qui a un représentant externe, qui est pour l'instant Josep Borrell, et puis aussi un peu de concurrence avec le président du Conseil, qui est Charles Michel, pour l'instant. Donc elle n'est pas seule à parler pour ça.
Mais je crois que les Européens comprennent très bien que nous devons nous opposer à cette cruelle agression. Oui, la protection de notre liberté a un prix. Mais il s'agit d'un moment décisif et c'est le prix que nous sommes prêts à payer, car la liberté n'a pas de prix. C'est notre principe, la liberté n'a pas de prix.
C'est clair que l'Union européenne s'est aussi toujours présentée comme défenseur de démocratie, qu'il y a aussi toute une série de critères liés au fonctionnement démocratique pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. C'est un des paramètres qui est pris en compte pour juger des demandes d'adhésion.
Bien que les mots dans les discours peuvent se ressembler, en réalité, ils sont bien différents et sont méticuleusement choisis. La vision de la démocratie et de la liberté est propre à chaque dirigeant, ces visions étant influencées par rapport à l'historique respectif de leur pays. Un podcast réalisé par Jessica Deleest, Rémi Rucois et Gemma Stéphanie.
Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.